vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix.
Nous sommes des élèves du Collège Jeanne d'Arc à Chamonix. Nous avons 13 ou 14 ans. On est 4 et nous sommes accompagnés de notre prof de français, Madame Mère, et Madame Martin, notre responsable du CDI.
Nous sommes à la radio car nous avons un projet depuis le début de l'année scolaire qui est de passer par groupe de 3 ou 4 à la radio pendant une heure.
Nous avons chacun préparé une chronique personnelle et nous avions un thème attitré qui est « Chamonix au 18e » et sur ce sujet, chacun fait une interview ou un reportage.
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Globule Radio.
Les membres de notre groupe sont Lilia, Eva, Félix et moi-même Noé et notre groupe s'appelle les Voix Alpines. Je vais passer la parole à Lilia qui va se présenter en quelques mots.
Bonjour, je m'appelle Lilia, je suis au Collège Jeanne d'Arc de Chamonix en classe de 4e. J'aime bien la musique et ma musique préférée est People de Libianca. Maintenant, je vais passer la parole à Eva qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 13 ans. J'aime bien faire du vélo et écouter de la musique. Ma musique préférée est Amnésie de Damso. Je vais maintenant passer la parole à Félix qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 13 ans, j'adore le foot et le ski. Mon joueur de foot préféré, c'est Lionel Messi. Je vais maintenant passer la parole à Noé qui va se présenter en quelques mots.
Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 14 ans et j'adore le foot. Et mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, je vais vous laisser écouter la musique Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Yeah. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop.
I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Just imagine. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing.
So keep dancing. I can't stop the feeling. 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 I Globule Radio.
Globule Radio.
Globule Radio.
The rhythm of the valley.
Au rythme de la vallée.
90.5 FM. We love music.
Vous êtes toujours sur Globule Radio, 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Nous sommes les voix alpines de l'école Jeanne d'Arc, et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Je passe maintenant la parole à Lilia et Eva, qui vont nous parler du signe astrologique du taureau.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre signe astrologique représentait ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du signe astrologique du taureau pour vous dire ce que le signe représente, ses traits de caractère, mais aussi ses origines. Le signe astrologique du taureau est un signe de terre gouverné par Vénus et la Lune. Ce signe a été un des plus vénérés et le plus sacré grâce à l'animal taureau. Ce signe est rempli de solidité et de force. Le nom du taureau vient aussi de la mythologie grecque, avec Zeus, qui s'était transformé en un taureau blanc pour séduire une magnifique princesse qui s'appelait Europe.
Est-ce que le signe du taureau a des défauts ?
Oui, comme chaque signe astrologique, le taureau a forcément des défauts. Un des plus gros défauts qu'il a, c'est de devenir très cruel dès qu'il se sent trahi. Mais il a aussi d'autres défauts, comme toujours vouloir avoir raison, même s'il a tort, ou alors même être très radin quand il le veut.
Existe-t-il une constellation que l'on associe à ce signe ?
Eh oui, il y a en effet une constellation. C'est l'une des constellations du zodiaque la plus ancienne, et qui se distingue par ses amas, qui veut dire « ensemble d'étoiles ». La constellation du taureau se situe entre la constellation du bélier, qui est à l'ouest, et celle du gémeaux qui se trouve à l'est. La constellation ressemble à la lettre K, avec un trait au milieu de la lettre. La lettre K montre la forme du taureau. Le haut de la lettre donne référence aux cornes, le milieu donne référence à une des pattes avant, et le bas de la lettre donne référence au dos du taureau.
Quel trait de caractère associe-t-on à ce signe ?
Le signe du taureau a plusieurs traits de caractère, comme le fait que tu peux lui faire confiance. Il ne te trahira jamais. Il est très fidèle, que ce soit en amour ou en amitié. Jamais il te trompera. Il est toujours présent pour ses proches, surtout quand ils sont dans le besoin.
Vous êtes toujours sur 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Nous allons maintenant écouter Without Me de Eminem.
Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said, they start feeling like prisoners helpless till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy.
36-year-old boy had it fag lonely. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. So I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me.
Vous êtes toujours sur Globule Radio. Nous sommes les voix alpines de l'école Jeanne d'Arc et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Je passe maintenant la parole à Eva et Lilia qui vont nous parler des glaciers.
Ma chronique parle des glaciers et du réchauffement climatique car à Chamonix, beaucoup de glaciers fondent.
De combien de mètres les glaciers avancent par an ?
La mer de glace se développe sur 2500 mètres de dénivelé, entre 3900 mètres et 1400 mètres d'altitude. Véritable phénomène vivant, les glaciers bougent constamment. La mer de glace ne déroge pas à cette règle. Avec un glacier qui avance de 90 mètres par an et jusqu'à 130 mètres par endroit.
Est-ce que les glaciers sont perturbés par le réchauffement climatique ?
Oui, ils le sont, car avec le réchauffement climatique, la chaleur, notamment en été, ils fondent et s'avancent.
Quand est-ce que les glaciers ont commencé à s'avancer ?
La période de refroidissement s'est terminée au milieu du 19e siècle, et depuis, le climat a commencé à se réchauffer plus rapidement dans les régions polaires. Les glaciers ont reculé presque partout. En 1950, la superficie des glaciers a diminué de 25% en Suisse et de 15% dans le Caucase. Même si les glaciers ont avancé de manière sporadique dans les années 1920 et 1960, ces périodes de refroidissement ont été courtes et d'une portée limitée d'après l'ONU.
Quel changement a le réchauffement climatique à présent ?
L'élévation des températures entraîne la fonte glaciale de la calotte glaciaire. La glace fond de plus en plus vite aux deux pôles. En conséquence, on constate qu'entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers à l'échelle du globe s'est élevé de 19 cm. Selon les estimations actuelles, si les glaciers dans le monde fondaient complètement, cela ferait monter le niveau des océans d'environ 61 cm.
Qu'est-ce qui nous attend et que peut-on faire ?
Cette question est sans doute la plus incertaine de toutes. Mais l'écrasante majorité des scénarios tape sur une augmentation des températures d'au moins 1,5 à 2 degrés. La question donc plus tellement comment échapper au réchauffement climatique, mais plutôt, comment peut-on y faire face ? Diminuer dès à présent les émissions de gaz à effet de serre contribuera à limiter l'ampleur du changement climatique et donc celle des adaptations nécessaires.
Quant aux mesures d'adaptation, en voici une liste.
Cesser certaines pratiques telles que la climatisation des immeubles et travailler plutôt sur leurs isolation thermique pour assurer le confort de leurs habitants. Accroître le couvert végétal dans les villes pour les refroidir et limiter l'apparition d'îlots de chaleur urbains. Protéger les écosystèmes et les milieux. Travailler plus intensément sur le recyclage ou la réutilisation de l'eau. Rétablir la continuité des cours d'eau, d'après Science et Avenir. La chronique peut partager des informations de plusieurs sites comme Science et Avenir ou encore l'ONU.
Vous êtes toujours sur Globule Radio, la radio de la vallée de Chamonix. Et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Je vais maintenant passer la parole à Félix, qui va nous parler de Lionel Messi avec moi.
Vous n'avez jamais rêvé d'interviewer votre idole ? Eh bien moi, j'ai décidé de vivre mon rêve. Mon copain Noël sera parfait dans le rôle de Lionel Messi et vous en apprendra beaucoup sur ce super champion. Tout ce qu'il dira est bien sûr réel et le résultat de mes recherches. À 35 ans, vous êtes le joueur le plus titré individuellement de l'histoire du football. Revenons sur votre parcours depuis votre enfance en Argentine. Petit en vous décrivant comme introverti et timide,
À 9 ans, vous mesurez que 1m11 et on vous diagnostique d'un déficit partiel d'hormones de croissance. Que pouvez-vous nous dire sur cette période ?
Malgré ma petite taille, j'étais quand même le meilleur joueur de mon club. Plusieurs clubs argentins étaient prêts à financer mon traitement, mais ils ont dû y renoncer à cause de la crise économique. C'est finalement grâce au FC Barcelone que j'ai pu continuer mes injections et finalement atteindre la taille de 1m69.
C'est une sacrée revanche sur la vie. Vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Pouvez-vous nous dire à nos auditeurs quels sont vos plus grands records ?
Je suis septuple ballon d'or et sextuple soulier d'or. Je suis devenu le meilleur buteur argentin de tous les temps avec un score de 65 buts, ainsi que le plus jeune buteur en Coupe du Monde, contre la Serbie et Monténégro en 2006 à l'âge de 19 ans. Puis, j'étais le plus jeune capitaine à 23 ans lors de la Coupe du Monde 2010. J'ai aussi obtenu le ballon d'or du meilleur joueur de la Coupe du Monde en 2014 et 4 prix du meilleur joueur du match, un record dans une seule compétition. Sans oublier bien sûr la victoire de l'Argentine, mon équipe, au Mondial du Qatar.
Vous êtes vraiment exceptionnel. Après un tel palmarès, que vous reste-t-il à obtenir ? Quels sont vos plans futurs ?
Jusqu'à présent, je me suis concentré sur la Coupe du Monde, au Qatar. Mais maintenant, je veux parler de mes plans futurs. Nous avons trouvé un accord de participer avec le PSG et je devrais bientôt signer pour 2 ou 3 années supplémentaires.
Merci Noé de m'avoir permis de vivre mon rêve. C'était un grand plaisir. Lionel Messi est une vraie star pour tous nos auditeurs. On lui donne rendez-vous en 2023 pour la 68e édition de la Ligue des Champions.
Vous êtes toujours sur Globule Radio et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Nous allons maintenant écouter The Real Slim Shady de Eminem.
May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just bursting the door. They started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem.
Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who.
Yeah, but he's so cute, though.
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is by the time they hit 4th grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me.
But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird?
Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV.
Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim.
I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and
Every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings. Or in the parking lot, circling, screaming, I don't give a fuck, with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Yes, it's a Slim Shady in all of us. Hockey. Let's all stand up.
Vous êtes toujours sur Global Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Nous sommes les voix alpines de l'école Jeanne d'Arc. Je vais maintenant parler avec Félix de Cristiano Ronaldo. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment Cristiano Ronaldo est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire ? Cristiano Ronaldo vient d'un milieu défavorisé, au sud du Portugal, à Funchal. La famille de Ronaldo vivait pauvrement. Les parents avaient 3 enfants, mais des revenus misérables. Donc, sa mère, pour ne pas devoir payer pour un 3e enfant, a essayé d'avorter, mais le médecin a refusé.
Heureusement que le médecin n'a pas accepté, vu le joueur qu'il est devenu. Que faisaient les parents de Ronaldo ?
Le père de Ronaldo s'occupait du matériel dans un club de foot et sa mère était cuisinière. Ronaldo a intégré le club de son père et étant déjà très fort pour son âge, il a été repéré par des recruteurs du Sporting Portugal. À 11 ans seulement, il est parti au centre de formation du Sporting Portugal et à 16 ans, il a rejoint l'équipe première du Sporting Portugal.
Quel club a fréquenté Cristiano Ronaldo ?
Après ses débuts au Sporting, il s'est envolé pour le prestigieux club de Manchester United, où il est resté de 2003 à 2009. Puis, il est parti pour le Real de Madrid, où il a marqué l'histoire jusqu'en 2018. Après, il est allé à la Juventus de Turin jusqu'en 2021. Puis, il a décidé de retourner à Manchester United, mais cela s'est très mal passé. Et en décembre 2022, il a été renvoyé du club, et maintenant, il finit sa carrière en Arabie Saoudite, à Al Nassr, où il est payé 200 millions par an.
Waouh, quelle carrière ! Quel est le palmarès en club de Ronaldo ?
Durant toute sa carrière, Ronaldo a remporté 5 Ligues des Champions, 1 Ligue des Nations, 1 Euro, 3 Premières Ligues, 2 Liga Santander, 2 Supercoupes d'Italie, 2 Serie A, 2 Coupes du Roi, 1 Coppa Italia, 1 Emirates FA Cup, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 League Cup, 1 Supercoupe, 3 Community Shield, 3 Supercoupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des Clubs et 1 International Champions Cup.
Waouh, impressionnant ! Quel est le palmarès personnel de Ronaldo ?
Durant sa carrière, il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions à 7 reprises, 3 fois meilleur buteur du championnat espagnol, 4 fois soulier d'or ESM et il a gagné 5 fois le Ballon d'Or.
On peut dire que c'est une carrière bien remplie.
Oui, en effet, Cristiano Ronaldo a marqué son temps, mais aussi toute l'histoire du football, et est aussi une source d'inspiration pour plein de jeunes footballeurs. C'est aussi un grand homme, car il a toujours donné son argent aux plus démunis ou aux recherches contre des maladies, comme en 2015, lorsqu'il a donné 150 000 euros pour la recherche contre le cancer au Portugal. Ou encore en 2011, lorsqu'il a donné 1,2 million de livres sterling pour aider à construire des écoles à Gaza, en Égypte. Pour moi, Cristiano Ronaldo est une énorme source d'inspiration dans la vie de tous les jours, footballistiquement, mais aussi humainement. Vous êtes toujours sur 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Nous sommes les voix alpines de l'école Jeanne d'Arc. Nous allons maintenant écouter La Montagne de Jean Ferrat.
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Je vais désormais parler d'Henriette d'Angeville. Henriette d'Angeville est née le 10 mars 1794 à Sémur en Auxois. Elle est connue pour être la deuxième femme après Marie Paradis à être montée au sommet du Mont Blanc. Grâce à cet exploit, elle est surnommée Mademoiselle d'Angeville, la fiancée du Mont Blanc. Alors qu'elle était encore jeune, durant la Révolution française, son père est fait prisonnier et son grand-père est guillotiné. Suite à ça, elle déménage à Hauteville-Loupnes, dans le département de l'Ain. Dès l'âge de 10 ans, Henriette se lance dans l'ascension de quelques sommets dans les alentours du Bugey. En 1838, alors qu'elle habitait à Genève, elle rêvait depuis longtemps de gravir le Mont Blanc, comme Marie Paradis l'avait fait auparavant. Donc, le 3 septembre 1838, alors qu'elle a 44 ans, elle devient la deuxième femme à gravir le toit de l'Europe, en compagnie de 12 guides et porteurs, 30 ans après Marie Paradis. Quand elle redescend, Marie Paradis lui confie qu'elle la considérait comme la première femme à gravir le Mont Blanc, car Marie Paradis a eu besoin d'aide pour monter jusqu'au sommet. Après son ascension, elle continue sa carrière d'alpiniste encore 25 ans. Sa dernière grande ascension fut l'ascension de l'Ol des Nornes dans les Alpes vaudoises en 1863 à l'âge de 69 ans. En 1862, elle s'installe à Lausanne et elle y meurt le 13 janvier 1871 à l'âge de 76 ans. J'ai eu l'honneur d'interviewer Aline Dacosta qui travaille au musée alpin et qui a répondu à ma question qui était « Quels vestiges d'Henriette d'Angeville sont conservés au musée alpin ?»
Alors, vestiges, c'est un grand mot, en tout cas collection. Comme Marie Paradis, nous n'avons pas beaucoup de souvenirs d'objets qui ont appartenu à Marie Paradis. En revanche, nous avons une gourde ovale en bois cerclé. Elle est entourée de fines cordelettes de chanvre et tenue par des anneaux métalliques. Cette gourde qui a un bouchon amovible en bois, elle fait partie de la collection primitive du musée alpin. Ça veut dire que lors de la création du musée alpin, qui a été fait par un savoyard qui s'appelle Cousin Berlincourt, il avait rassemblé 70 objets et il a offert sa collection à la ville de Chamonix qui va créer le premier musée municipal inauguré en juillet 1926. Et dans cette collection, il y avait déjà donc cette gourde qui est donc une donation de Joseph Cousin Berlincourt qu'il attribuait à Henriette d'Angeville. Donc, on a cette gourde en bois.
Vous êtes toujours sur Globule Radio, 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Nous sommes les voix alpines de l'école Jeanne d'Arc et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Aline Dacosta, qui travaille au musée alpin, vient de nous présenter le premier objet de collection d'Henriette d'Angeville. Et maintenant, nous allons passer aux deux autres objets de collection.
Et ensuite, nous avons également un costume. Et encore une fois, ce n'est pas le costume original, mais un costume qui reprend exactement le costume que portait Henriette d'Angeville lors de son ascension au Mont-Blanc, qui a été réalisé à l'occasion d'un film. Donc c'est un costume qu'on présente en salle, que le public pouvait voir jusqu'à la fermeture du musée alpin, et qui est très particulier puisque les premières alpinistes allaient en montagne en robe, et Henriette d'Angeville porte sous sa robe un pantalon bouffant, un petit peu inspiré des chasseurs, par exemple. Son costume avait de nombreux accessoires qui ont été reproduits également et qui sont présentés au musée alpin. Nous avons également dans les collections le carnet de guide de Jean Munier, qui était le guide d'Henriette d'Angeville. Et pour le coup, c'est elle qui lui a offert ce carnet en 1838. Et ces carnets, pour les guides, ils étaient très importants puisque c'était un petit peu comme leur carte de visite. Ils allaient noter à l'intérieur non seulement les courses qu'ils faisaient, les noms des clients qu'ils accompagnaient, mais le client laissait aussi une petite phrase, une information qualitative pour parler de son guide. Donc, ce n'est pas vraiment l'objet directement Henriette d'Angeville, mais c'est elle qui l'a offert à son guide Jean Munier. Voilà, c'est tout ce que nous avons dans les collections en lien direct avec Henriette d'Angeville.
Vous êtes toujours sur Globule Radio et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Je vais maintenant passer la parole à Félix qui va présenter son interview.
Pour mon interview, j'ai eu le plaisir d'interviewer Aline Dacosta qui travaille au musée alpin. Je lui ai posé des questions sur le thème du tourisme au 18e siècle et ma première question était « Quand est-ce que les premiers touristes sont arrivés à Chamonix ?»
Alors, il y a très longtemps, on va vraiment parler de touristes et non pas de passages, parce qu'il y avait déjà beaucoup de passages dans la vallée de Chamonix. On considère que les premiers touristes sont Wyndham et Pocock, deux Anglais qui font un voyage à travers l'Europe et ils décident de venir à Chamonix ils arrivent à Chamonix le 21 juin 1741. En soi, le mot « tourisme » vient de l'anglais, parce que les Anglais faisaient ce qu'on appelle le grand tour à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'en plus du fait d'étudier, ils se devaient de voyager pour se cultiver. Et d'ailleurs, par définition, un touriste, c'est celui ou celle qui voyage pour son plaisir, pour se détendre, s'enrichir et se cultiver. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit que Wyndham et Pocock arrivent à Chamonix. Ils étaient à Genève. Et il marche pendant 3 jours pour atteindre la vallée. Nous conservons d'ailleurs au musée alpin une huile sur toile qui représente leur arrivée à Chamonix, qui évoque cet événement qui est fondateur de l'histoire et du début du tourisme dans la vallée, et qui les représente accompagnés de mulets, de chevaux pour porter leur matériel, mais surtout d'hommes armés, puisqu'ils étaient partagés entre la crainte et la curiosité de ce qu'ils allaient découvrir dans ces glacières, comme on les appelait à l'époque, ces glacières, ces montagnes maudites. Et lors de leur séjour, ils vont expliquer au curé du village, aux habitants, qu'ils souhaitent découvrir la montagne. Sauf qu'à ce moment-là, la montagne était source de danger, elle faisait peur. L'alpinisme n'avait pas encore commencé. Ils ont quand même marché pendant 3 jours, donc on voulait vraiment voir cette montagne. Et finalement, le lendemain, après 3-4 heures de marche, ils arrivent au Mont-en-Vert. Ils découvrent cette merveille de la nature, cet immense glacier. Ils ont l'impression de voir une mer, un lac gelé d'un coup. Ils l'appellent la mer de glace. Mais ce qui est important, c'est que non seulement ils viennent pour découvrir la vallée, donc vraiment en tant que touristes, c'est vraiment ça qui change et qui commence le tourisme à Chamonix, mais c'est surtout qu'ils vont faire la promotion de la vallée. Ils vont en faire la publicité. William Wyndham va écrire le premier livre sur la vallée de Chamonix, ce qui va inciter du coup les gens à séjourner à leur tour.
Comment est-ce qu'ils ont connu Chamonix pour la première fois ?
Eh bien justement, comme je le disais finalement juste avant, les Anglais avaient pour habitude, dès le 17e, 18e, de faire ce grand tour. Donc évidemment, il n'y avait pas de médias à l'époque, hein, c'était surtout du bouche à oreille. Il n'y avait pas encore de récits sur la vallée, puisque c'est William Wyndham qui va l'écrire. Donc finalement, ils en ont forcément entendu parler, puisqu'ils passaient par la Suisse, par l'Italie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la fameuse promenade des Anglais aussi à Nice. Et ils venaient jusqu'à Chamonix. Et puis bien sûr, depuis Genève, on aperçoit le Mont Blanc. Donc c'est certainement ce qui a suscité leur intérêt et ce qui a, leur a donné envie, cette curiosité de venir faire le voyage jusqu'à Chamonix.
Que venait-il faire à Chamonix? Il venait faire du sport, voir les montagnes?
Bah, ça dépend. Ça dépend de la période. Ça fait 300 ans, plus de 300 ans maintenant que la vallée de Chamonix attire. Et cette attractivité, elle se fait pour des raisons différentes. Tout d'abord, au XVIIIe siècle, au moment de Windham et Pocock, justement. Et puis ensuite, c'est la curiosité. Le XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, qui est caractérisé par un fort intérêt pour les sciences et la nature. On est curieux de découvrir comment ça fonctionne, de découvrir la montagne, les glaciers. C'est donc pour des raisons scientifiques que les premiers touristes arrivent, mais c'est aussi pour des raisons scientifiques.
Alors,
que commencera au tout départ,
Windham
et Pocock,
la première arrivée à Chamonix,
on le voit sur l'huile que nous avons.
Et dû à ça,
à la curiosité du scientifique de Saussure, qui souhaite vérifier si le sommet est le plus haut. Donc, d'abord, c'est plutôt pour le côté découverte scientifique. Ensuite, ça va être plutôt pour la contemplation. On vient pour admirer les montagnes, pour admirer ces beautés de la nature qu'on n'a pas partout, qu'on découvre à travers les récits et les témoignages des premiers voyageurs. Et à la fin du XVIIIe, c'est plutôt le romantisme qui s'oppose complètement au siècle des Lumières. C'est-à-dire que si avant, c'était un intérêt scientifique, là, ce n'est plus du tout le cas, c'est plutôt un intérêt artistique. Ça veut dire qu'on vient pour exprimer ses sentiments, pour peindre, pour écrire, comme d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, Victor Hugo, qui écriront sur la vallée de Chamonix. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le tourisme plutôt aristocratique, qui est fortement en lien également avec la conquête des cimes, la conquête des Alpes, et ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme, qui va durer une dizaine d'années entre 1854 et 1865. Et puis, il va falloir attendre un petit peu pour avoir un tourisme hivernal, parce qu'au départ, les touristes venaient qu'en saison d'été. Ils ne venaient pas l'hiver, puisque l'hiver, clairement, c'était que des inconvénients à l'époque. Et pour que ce soit attrayant, il va falloir attendre l'arrivée, le début des sports d'hiver. Et les premiers skis à Chamonix font leur apparition en 1896, donc à la fin du 19e siècle. C'est donc à partir du 20e siècle que Chamonix va voir se développer un tourisme plutôt sportif, on va dire, pour faire ces sports d'hiver, pour pratiquer ces activités.
Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Et le thème de cette émission est Chamonix au 18e. Nous venons d'écouter la première partie de l'interview de Félix, et maintenant, nous allons écouter Riptide de Vance Joyce, et ensuite, nous écouterons la partie 2 de l'interview de Félix.
Singing a song.
to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the river, taken away to the dark side.
Globule Radio, l'oreille experte.
Je ne me trompe jamais, j'ai l'oreille musicienne.
Enchaîne. Il y a eu un problème.
Monte le son.
90.5 FM.
Nous avons eu un problème pour la deuxième partie de l'interview de Félix. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lilia qui va nous présenter son interview.
Pour mon interview,
j'ai eu le plaisir d'interviewer Christine Lasserre dans l'association Les Amis du Vieux Chamonix sur le thème des gravures au XVIIIe siècle. Je lui ai demandé quelles sont les particularités des gravures ou tableaux du XVIIIe siècle que l'on peut trouver à Chamonix.
La particularité, c'est surtout pour nous, ça nous permet de découvrir comment était Chamonix à cette époque-là. Et c'est vraiment quelque chose d'important, les glaciers qui descendaient beaucoup plus bas, la perception aussi qu'avaient les gens de la montagne, qui n'est pas la même que la nôtre, et puis on a aussi quelquefois des tableaux, des gravures qui représentent le village de Chamonix ou la vallée de Chamonix. Donc pour nous, c'est évidemment extrêmement important de pouvoir lire ces documents.
Attendez-vous que nous parlions de l'histoire de la représentation à Chamonix ?
Oui, parce que c'est évidemment très important pour connaître le passé de Chamonix. C'est très, très important de pouvoir lire, de pouvoir découvrir ces documents, parce que pour nous, ils sont très instructifs.
Comment ces gravures ont-elles été utilisées à Chamonix ? Ont-elles été utilisées, par exemple, à des fins artistiques, documentaires ou commerciales ?
Mais c'est très intéressant parce que les premiers voyageurs qui venaient au XVIIIe siècle et aussi au XIXe siècle étaient souvent des gens aisés hein, qui venaient voyager, qui venaient découvrir. Et ils se faisaient accompagner souvent d'écrivains qui racontaient le récit du voyage et aussi de peintres ou de graveurs qui représentaient les paysages qu'ils avaient vus. Donc, c'était extrêmement important. Et évidemment, ces voyageurs, quand ils rentraient chez eux, ben, ils montraient, ils racontaient le récit et ils montraient ce qu'ils avaient vu. Donc, ces tableaux ont été importants.
Comment les gravures ont-elles évolué au fil du temps ? Y a-t-il eu des changements dans les styles et les sujets représentés ?
Alors, au début, c'est assez naturel, correspond souvent à une certaine réalité. On n'a pas toujours la même impression, on ne comprend pas toujours comment le Mont Blanc il est comme ça et comment l'aiguille est comme ça. Et puis après, il y a eu une période au XIXe siècle, c'est la période qu'on appelle romantique, où là, on magnifiait complètement les montagnes, donc on avait une vision un petit peu pas ordinaire. Et puis après, on est revenu à une représentation plus traditionnelle. Donc ça, ça change un peu avec le temps.
Quel est le processus de restauration des gravures endommagées ? Quels sont les principaux défis à relever pour préserver ces œuvres d'art ?
C'est un réel défi parce que au départ, quand on a commencé à restaurer, on le faisait pas correctement parce qu'on connaissait pas toujours la technique, on savait pas comment ça avait été fait et on se rend compte maintenant que parfois dans certaines restaurations, il y a eu des erreurs. Maintenant, on est un peu plus au point, on est plus précis, on fait surtout attention de ne pas refaire le tableau, on restaure tout simplement avec les techniques de l'époque le tableau ou la gravure.
Quelles sont les collections de gravures du 18e ou 19e siècle que l'on peut trouver à Chamonix ? Comment ces collections ont-elles été constituées et où sont-elles conservées ?
Ça, c'est une bonne question parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Chamonix a attiré grand nombre de voyageurs avec beaucoup de tableaux qui ont été faits, mais dispersés un petit peu partout. Maintenant, quand on veut retrouver les tableaux qui ont été faits, on a une très belle collection au musée alpin de Chamonix. On a une très belle collection à Annecy qui s'appelle la collection Payot, c'était un maire qui s'appelait Paul Payot, qui était amoureux fou de Chamonix et qui a donné sa collection au département de Haute-Savoie. Donc, on a une très, très belle collection ici à Annecy. Et puis, tu as l'association des Amis du Vieux Chamonix qui possède aussi quelques très beaux tableaux et quelques très belles gravures. Donc, tu vois, on a à Chamonix maintenant une belle collection. Quand le musée sera restauré, vous pourrez aller le visiter et tu vas voir qu'il y aura de très belles choses à voir.
Comment les gravures ont-elles transmis l'art et la culture de Chamonix ? Ont-elles inspiré d'autres artistes ou ont-elles eu un impact sur l'identité culturelle de la région ?
Alors effectivement, ce qui est important, c'est que le premier impact, c'est que quand les gens voyaient ça, quand un Anglais ou un Allemand voyait ces tableaux, ils avaient envie de venir. Donc, ça a fait venir du monde à Chamonix, donc des touristes. Et du coup, ça a permis à la vallée, évidemment, de se développer, de connaître un peu plus d'activités. L'impact, bah, c'est ça. Hein, ça a permis à des visiteurs de venir découvrir. Est-ce qu'ils ont inspiré d'autres artistes ? Bah, bien sûr. Ben bien sûr, parce que un artiste, ben, quand il avait vu qu'un de ses collègues avait représenté tel glacier ou tel sommet ou telle aiguille, ben lui, il voulait aller venir voir et il venait aussi refaire. Donc ça c'était toujours très stimulant. Et nous, on est extrêmement étonnés de voir la quantité de peintres qui sont venus dans la vallée de Chamonix.
Comment la technologie numérique a-t-elle changé la façon dont les gens peuvent accéder et interagir avec les gravures à Chamonix ?
À Chamonix, je ne sais pas, ce que je peux savoir, c'est que la technologie permet d'abord de décortiquer un tableau. Tu sais, on peut savoir comment le tableau a été fait, comment il a été réalisé, s'il y a eu des restaurations, s'il faut refaire des restaurations derrière. Donc ça, c'est sûr que la technologie nous permet de restaurer au mieux hein, ces tableaux. Ça, c'est évidemment très important.
Quelles sont les perspectives d'avoir pour les gravures à Chamonix ? Comment ces œuvres d'art peuvent-elles continuer à être appréciées et préservées pour les générations à venir ?
Ben évidemment, c'est très important. Maintenant, on va avoir un nouveau musée. Et ils vont orienter essentiellement sur les gravures, les tableaux, enfin tout ce qui est représentatif. Maintenant, on a des techniques modernes qui permettent de mieux conserver. Par exemple, une gravure, il ne faut pas qu'elle soit trop longtemps à la lumière. Donc, en général, les gravures, on va les mettre 3 semaines, 4 semaines, et puis on les enlève et on met quelque chose d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris là, grâce aux nouvelles techniques. Et c'est vrai que maintenant, quand on ouvre des salles de musée pour pouvoir exposer ces tableaux ou ces gravures, eh bien, on va trouver un moyen où il n'y a pas trop de lumière extérieure qui rentre. Il faut qu'on ait toujours une température moyenne. Donc, on va maintenir une température moyenne de telle manière que les tableaux ne se déchirent pas ou ne s'abîment pas en raison des changements de température. Donc là, la technique, elle va pouvoir nous aider à pouvoir préserver. Et puis, on expose pendant un temps, on les remet dans les archives et puis on remet d'autres tableaux pour que l'on puisse varier et éviter de les exposer trop longtemps. C'est surtout ça qui est très important.
Merci beaucoup.
C'était bien volontiers. Voilà.
Vous êtes toujours sur Globule Radio, 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Et nous avons fini. Est-ce que cette émission vous a plu ?
Oui, j'ai adoré, moi.
Vous avez aimé la faire ?
Oui, moi aussi.
Ah, moi aussi.
Et bah pour clôturer cette émission, nous allons écouter Height Ups de Panic at the Disco.
change. We wanted everything, stay up on their eyes, stay up on their eyes, never come down the door. Stay up on their eyes, stay up on their eyes, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more. Killing.